Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les stocks de maquereau s'épuisent. Le thon est de retour, comme la coquille Saint-Jacques, mais le cabillaud va manquer. Donc après avoir disparu complètement des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les chercheurs avaient prévenu les pêcheurs, mais les armateurs de chalutiers n'ont rien voulu entendre, accusant le réchauffement climatique du départ des morues. Finalement, leur niche écologique a été envahie par les méduses, puis par les crabes, et elles ne sont jamais revenues. Donc on parle beaucoup de la pêche et nous consommons toujours plus de produits de la mer puisque depuis les années 50, nous en consommons 10 fois plus. Alors il faut poursuivre la réglementation car il est aujourd'hui prouvé que l'on surpêche à cause de bateaux plus grands, de filets plus efficaces ou de technologies de détection plus avancées comme les radars. Et comme le disaient les chercheurs, ces équipements permettent d'aller en mer chaque jour alors qu'avant, par gros temps, on restait sur la terre ferme et le poisson se reposait. Aujourd'hui, la guerre de la pêche, c'est tous les jours. Et ce n'est pas nouveau. Dans les années 70, pour les plus vieux, on assistait dans le golfe de Gascogne à de véritables combats en mer. Les bateaux brûlaient, les hommes se déchiraient, voilà. Et puis les choses se sont doucement améliorées avec la création des ZEE, les zones économiques exclusives, ces bandes de mer ou d'océan qui ne peuvent s'étendre au-delà de 200 miles, soit 370 km à peu près, qui sont situées entre les eaux territoriales et internationales. Les États côtiers sont responsables depuis la signature des accords dits de Montego Bay en 1982. Et à ces zones réglementées sont venus s'ajouter d'autres espaces réglementés, toujours sous la responsabilité de l'état côtier, des aires marines protégées. Mais la pêche illégale continue et se poursuit. Écoutons donc Philippe Valette, qui est chercheur, qui a longtemps été directeur du musée Nausicaa et qui est maintenant à la Fondation de la mer.
L'origine des réglementations sur la pêche, c'est que jusqu'à au 19e siècle, disons, les moyens mécaniques de pêche suffisaient à réguler la pêche par eux-mêmes, puisqu'il y avait beaucoup de poissons, et que les moyens mis en œuvre pour les capturer étaient toujours inférieurs à ce qui aurait pu être critique pour atteindre la viabilité d'un stock. Avec la mécanisation des bateaux, eh bien, on est arrivé à des moyens extrêmement performants pour pouvoir capturer le poisson. Et donc, ce qui paraissait être une manne sans fin, en fait, s'est avéré une manne avec des limites. Et donc, il a fallu que l'on commence à mettre des règlements en place pour pouvoir gérer, comme on dit, les stocks de poissons. Aujourd'hui, on a en gros 80 millions de tonnes qui sont pêchées chaque année en mer par la pêche mondiale. Et on estime que la pêche INN représente 20% de ça en plus, vous voyez. Donc c'est énorme et ça représente beaucoup d'argent. Évidemment, toute cette pêche INN est là qu'un objectif, c'est de faire de l'argent. Hein. Et donc, on met à terre environ 20 millions de tonnes, 15 millions de tonnes de poissons qui n'est pas déclaré. Ça représente des milliards de dollars. Il y a des endroits dans le monde où on estime que la pêche INN, c'est les 2/3 de la pêche sur un stock précis, vous voyez. La pêche INN, c'est-à-dire illégale, non comptée, non réglementée, c'est un phénomène mondial qui est une plaie mondiale qui finalement empêche de bien gérer les stocks de poissons et d'assurer la survie non seulement de ce qu'il y a dans la mer, mais aussi la survie des populations qui en vivent. C'est quelque chose qui va de la simple sous-déclaration d'un pêcheur jusqu'à de l'esclavage moderne sur des bateaux esclaves qui sont inconnus de tout le monde et qui ont bien sûr tout leur système satellite coupé et qui pêchent 365 jours par an avec des hommes esclaves à bord qui, pour certains, ne reverront jamais la terre puisqu'ils meurent à bord.
Donc, on vient de voir là un des plus grands fléaux qui menacent aujourd'hui la pêche, mais il y en a d'autres, et le débat est assez difficile. Bien sûr, la protection avance, et on peut dire par exemple qu'en 1970, 25% des stocks seulement étaient bien gérés en Europe, contre 70% aujourd'hui. Donc ça, c'est pour répondre à tous les échos anxieux. Les choses bougent quand même et les choses avancent. Malheureusement, le progrès avance également. Et il faut parfois le surveiller et parfois faire des choix de progrès. En tout cas, le débat est difficile parce que chacun accuse l'autre. Les pêcheurs artisanaux accusent la pêche industrielle, les ONG dénoncent le non-respect des aires marines protégées et demandent l'interdiction des outils bulldozers. Les scientifiques travaillent de plus en plus sur les quotas, mais il faut des années pour les faire accepter par les pêcheurs. Et même quand arrive la loi, comment est-elle respectée ? Enfin bref, si la loi sur la haute mer entre en vigueur en 2026, c'est la fameuse BBNJ, de nouvelles zones seront cette fois créées en pleine mer, elles aussi réglementées. Ce sera une révolution pour la pêche et surtout pour sa réglementation. Cependant, les pêcheurs résistent à ces mesures qui modifient leurs habitudes. Au cas par cas, le combat se poursuit et en interdisant par exemple l'usage d'un outil ou en agissant sur des aides toxiques comme les subventions. C'est ce que l'association Bloom, qui est dirigée par Claire Nouvion, préconise en insistant sur les mauvaises pratiques de la pêche industrielle et sur la nécessité de sauvegarder la pêche artisanale. Déjà, Bloom a eu raison de la pêche électrique, savez-vous ? Vous rappelez-vous, ce fut un long combat, mais tout n'est pas résolu. L'océan a été trop longtemps négligé. Aujourd'hui, le débat se crispe. Il faut accélérer les décisions. Malheureusement, à Bruxelles, pour la pêche comme pour l'agriculture, ce sont les grands lobbies qui se sont imposés. Écoutons la colère de Claire Nouvion contre notamment les grands lobbies de la pêche industrielle.
Toute la législation européenne, puisque c'est au niveau européen que ça se joue pour la pêche, oui. elle est tenue par les lobbies industriels. Et d'ailleurs, le représentant des pêcheurs français, à l'époque de la réforme de la politique commune de la pêche, en 2013, je me souviens très bien, il nous avait dit « Vous commencez à nous emmerder avec votre petite pêche ». Et on lui avait dit « Notre petite pêche ? Mais vous voulez rire ? Ce sont vos pêcheurs. 75% des bateaux aujourd'hui en France font moins de 12 mètres. Et donc, ils sont où sont les individus qui défendent cette pêche-là ? La pêche vertueuse, elle est défendue par qui ? Par les ONG. Personne d'autre. C'est ahurissant. Et donc, heureusement, on a quelques relais politiques au Parlement européen qui comprennent ça. Et grâce au bilan, justement, qu'on leur a présenté hier, se sont dit, en fait, on a fait tout faux. Les politiques ont choisi de financer et de soutenir la destruction de l'océan et de l'emploi.
Claire Nouvion, est-ce qu'on risque une explosion des importations de poissons ou de produits de la mer?
Merci d'en parler. Parce que, justement, quand on parle de ça, ceux qui vous disent, les écolos veulent tuer la pêche, en fait, ce sont les lobbies industriels qui aujourd'hui font quoi ? Ils sont en train de prévoir, si vous avez vu passer ce sujet qui est complètement ahurissant, qui prévoit depuis le port de Lorient d'investir au sultanat d'Oman dans un port industriel pour à terme importer du poisson par avion. Donc on est sur le summum du délire, on va dire, écologiste. Et alors d'un point de vue empreinte carbone, on fait pas mieux. Et donc ce sont ceux qui ont détruit la ressource, détruit l'océan, détruit l'emploi, qui en fait veulent maintenant importer du poisson par avion. Vous vous rendez compte ? Alors je vais vous dire, il ne faut pas laisser la pêche aux lobbies industriels et à leurs représentants politiques actuels. C'est eux qui sont en train d'enterrer, y compris les pêcheurs artisans.
Et vous savez, ce combat, ça se paye. Depuis qu'elle a largement exprimé son opposition aux chaluts en eau profonde, Claire Nouvian était aujourd'hui victime de violences. La porte de son appartement a été badigeonnée de peinture et elle a été victime de plusieurs agressions. Le droit, donc, avance. Mais il avance aussi grâce aux volontés nationales. Cet été, il faudra par exemple suivre le débat entre les pêcheurs français et les Anglais. Et cela risque de faire beaucoup de bruit, puisque les Anglais, suite aux conclusions de la COP 16, rappelez-vous, c'était en novembre dernier sur la biodiversité, donc ils ont annoncé une extension de l'interdiction de la pêche au chalut de fond dans leurs eaux. Cela représentera une surface totale de 30 000 km² contre 4 000 actuellement. En effet, depuis mars 2024, le chalut de fond est interdit dans 13 aires marines protégées britanniques, donc 5 en mer Celtique, 7 en Manche et mer du Nord, pour une superficie donc avant de 4 000 km², comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les documents fournis par les Britanniques détaillent les raisons du classement en aires marines protégées, que ce soit la protection des sédiments ou d'espèces marines telles la moule bleue ou la praire d'Islande. Déjà très sévèrement touchée par les crises successives qui étaient liées au Brexit, à la pandémie du Covid-19 et à la hausse des prix de l'énergie, les pêcheurs français se trouvent en sale situation. Et on ne peut se contenter de mesures unilatérales, car cette mesure britannique pourrait signer l'arrêt de mort de la filière française et elle fait douter également des discussions difficiles qui vont avoir lieu pour la renégociation en 2026 de l'accord de coopération et de commerce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les mesures multilatérales sont plus conformes à la réalité d'un poisson qui ne connaît pas les frontières, mais elles sont aussi plus difficiles à faire respecter. C'est le cas en Guyane, où les lois de protection édictées par l'Europe ne touchent pas les voisins, que sont le Brésil et le Suriname, et qui continuent à piller la mer malgré le fait que leur bateau ait été coulé ou que leur filet ait été confisqué par les autorités guyanaises. Patrick Lecante, qui est maire de Montcinéry-Tonnégrande et président de la commission de l'eau et de la biodiversité en Guyane, nous l'avons rencontré à Nice. Et il mène sans relâche cette bagarre contre la pêche illégale.
La première, c'est la question de la pêche INN, illégale, dans nos eaux territoriales, parce qu'en définitive, on assiste à une quasi-disparition donc, des espèces emblématiques de notre territoire. Je veux parler donc, déjà de la coupa rouge, qui est la protéine animale donc, de la mer la plus consommée. Et donc on risque finalement d'avoir une problématique alimentaire assez grave, tout simplement parce que les flottes qui nous viennent de nos pays voisins, faut pas s'y cacher, parce que ces ressources halieutiques ont disparu chez eux, viennent donc capturer.
La coupa rouge aurait disparu déjà de pas mal de lieux.
Il aurait quasiment disparu donc, du Guyana et du Suriname. La question de la surpêche existe aussi du côté du Brésil voisin, donc l'état de l'Amapá. Et en définitive, donc, l'ensemble des petits pêcheurs, des pêcheurs côtiers, viennent finalement exercer leur métier. Mais cela vient bien évidemment concurrencer nos petits pêcheurs qui, eux, se retrouvent en grande difficulté face à une armada, finalement, de pêcheries qui nous viennent donc des pays voisins.
Alors, il n'y avait pas seulement lié à cette pêche illégale le problème de la coupa lui-même, donc des protéines, mais il y avait aussi tout un trafic qui se faisait autour des vessies natatoires.
Alors c'est effectivement vrai puisque nous savons que finalement on est vraiment sur une seule planète et que cette vessie natatoire était très prisée par les populations chinoises et en définitive donc elles viennent augmenter finalement le risque, la pression sur la pêche en récupérant les vessies natatoires des coupas rouges, voire en prélevant également les ailerons donc de nos petits requins. Donc vous voyez que c'est un ensemble de choses qui nous fait nous dire qu'il va falloir qu'on regarde ici attentivement à l'UNOC, parce que c'est le lieu, grâce à l'État français, l'Union européenne, mais également les discussions que nous pourrons avoir avec nos pays voisins, pour faire en sorte que finalement nous rétablissions une diplomatie vraiment de cette économie qui est consubstantielle finalement du plateau des Guyanes.
Alors, vous me disiez également que cette pêche illégale avait une autre conséquence sur une des espèces emblématiques de la Guyane.
Oui, tout à fait. On assiste à la quasi-disparition, là aussi, de cet animal marin préhistorique qui a survécu finalement à toutes les grandes périodes, à la fois les périodes de glaciation et de réchauffement. S'il y a une quinzaine d'années, on pouvait observer au moins 15 à 20 000 pontes de tortues luttent sur nos côtes, et en particulier sur la plage de Yalimapo. Aujourd'hui, à dire d'experts et des associations environnementalistes qui s'occupent de cette question, il ne resterait plus que 6 à 8 femelles. Donc c'est dire qu'en définitive, ça y est, comme on dit chez nous, la messe est dite, l'espèce est en voie de disparition grave. Et là, c'est une alerte que je fais à l'ensemble des autorités pour faire en sorte que nous puissions certainement sauver cette espèce que nous devons finalement pour les générations futures. Alors c'est directement lié à la pêche illégale à 80%. À cause des filets qui ont des mailles beaucoup trop petites, alors que nos pêcheurs, grâce au WWF, a mis en place une technique de pêche qui permet aux tortues de s'échapper de ces filets. Et puis c'est lié aussi directement au réchauffement climatique, parce que le sable étant beaucoup plus chaud, ce sable trop chaud n'arrive plus à réguler finalement le sexe des tortues entre mâles et femelles, tantôt trop de mâles ou trop de femelles à cause du changement climatique et du rehaussement finalement de la température du sable. Donc tout ça c'est lié.
Plus la montée des eaux, puisque la plage de Yalimapo, où elle venait pondre habituellement, est en train de disparaître.
Complètement, le cordon sableux a carrément disparu à Yalimapo, comme il est en train de disparaître, au risque de disparaître grandement du côté des plages de Rémière. Donc c'est un ensemble de choses, et donc notre biodiversité que nous devons au monde, puisque c'est ce que nous offrons, est en grand danger. Donc c'est vraiment le cri du cœur que je voulais vous signifier grâce à votre entremise.
Oui, mais j'ai encore une question à vous poser, parce que vous êtes ici, c'est sans doute... Alors, il y a eu énormément de mesures qui ont été prises déjà pour essayer de lutter contre cette pêche illégale. Et aujourd'hui, justement, quel bilan vous faites de ces mesures et qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez?
Alors, le bilan du plan national, tortue lutte, tortue marine, a été fait. C'est un bilan très négatif, y compris reconnu par les services de l'État. Le 23 mai dernier, nous avions, dans une réunion très officielle que j'ai animée, fait ce constat, ce triste constat. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir à un troisième plan, plus territorialisé, avec finalement une implication plus forte des autorités locales, des maires, de la collectivité territoriale, mais aussi des habitants, pour faire en sorte que nous ayons finalement tous conscience, la société civile comme les institutionnels, mais également les entreprises privées, l'obligation finalement de préserver notre biodiversité marine.
Mais alors, il faudrait que qu'il y ait un accord entre les lois des pays, Brésil, Suriname, France, pour y parvenir, pour lutter contre cette pêche illégale.
Faire en sorte que l'Union européenne puisse exercer sa propre pression sur les pays tiers, hors Europe, puisqu'il s'agit de cela aussi, et conditionner finalement l'aide européenne à un respect de la réglementation en matière de pêcherie illégale. Et puis dire à l'ensemble du monde que nous existons et qu'il faut que la Guyane et sa voix soient entendues dans ce grand concert des nations.
Alors, pour bien comprendre, effectivement, il y a peut-être quelque choses que vous devez savoir, c'est que la réglementation du sexe des tortues est liée à la température. Cela a été mis en vigueur. On a découvert cette chose grâce à Frété, qui a été un des scientifiques qui s'occupait des tortulutes sur Wallimapu, et qui a découvert que certains changements de température avaient une incidence donc sur le sexe des tortues. N'oublions surtout pas que à ce réchauffement qui est dû au réchauffement climatique s'ajoute également de l'enfouissement de plastique dans le sable qui maintient sa température élevée et qui joue lui aussi un rôle sur les fonctions donc de reproduction des tortulutes. En tout cas, face au fléau de la pêche illégale, parfois l'État côtier est complice. Donc le cri d'alarme de M. Lecante, enfin du maire de Montsinéry, n'est pas seulement destiné à ses voisins au Brésil et au Suriname, il est aussi destiné à la France, qui devrait être capable de gérer les problèmes qui sont liés au pillage de ses côtes et qui, malgré un grand effort, n'y parvient pas. Donc, en tout cas, il continue cette bagarre. Alors donc, on l'a dit, parfois l'État côtier est complice et il vend les ressources du bien commun qu'est l'océan au détriment des citoyens, comme on le voit en Afrique, où des chalutiers de 150 mètres de long pillent les côtes du Sénégal ou du Kenya, qui étaient jadis très poissonneuses. Aujourd'hui, les filets reviennent souvent vides et le poisson se fait rare, notamment à cause des méthodes industrielles et destructrices de ces chalutiers étrangers, chinois, tanzaniens, italiens, qui pillent les fonds marins au mépris des règles. Le poisson que vous mangez, c'est du poisson volé, nous disait Anis Ibrahima Ba, qui œuvre à la cogestion des pêches en Mauritanie. Et puis, il y a 15 ans, un nouveau péril est arrivé. Les usines de farine et d'huile de poisson. Ces dernières exploitent les petits poissons pélagiques de la région, les sardinelles, les chinchards, les bongas, les maquereaux, pour les transformer en nourriture pour poissons, c'est-à-dire en farine. Et plutôt que de nourrir la population locale, ces précieuses ressources en protéines atterrissent directement dans l'estomac des saumons, des bars et des autres poissons d'élevage dont se repaissent les Européens et les Asiatiques. L'aquaculture, pour la première fois, s'est imposée effectivement comme alternative et elle a produit mondialement 94 millions de tonnes de poissons. Mais c'est une autre histoire, un autre secteur à réglementer. Comme quoi, tout progrès pose toujours question à l'écologie. La préservation de l'avenir des océans n'a pas fini de nous occuper.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.